beaucoup travaillé aujourd'hui.
Et elle fait de la route ce soir.
Oui, elle fait la route ce soir.
Toi, tu rentres ce soir.
Exceptionnellement. La prochaine fois, je resterai plus longtemps. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement lire un ou deux des dans le dossier que vous avez, juste pour... Qu'est-ce qui veut bien nous lire le premier texte? Je crois que c'est Dorothée de Gaza, non? Si ma mémoire est bonne.
Spirituel.
Vas-y. Donc voilà. Alors, c'est des extraits un peu plus longs, parce que je vous ai donné des petites phrases comme ça. C'est des extraits un peu plus longs pour montrer comment les pères comprenaient ce mystère de l'homme au paradis.
Donc, extrait des œuvres spirituelles, instruction. Quant au commencement, Dieu créa l'homme. Il le plaça dans le paradis, comme dit la Sainte Écriture en Genèse, après l'avoir orné de toute vertu, et il lui donna le précepte de ne pas manger de l'arbre qui se trouvait au milieu du paradis. Toujours Genèse. Et l'homme vivait dans les délices du paradis, dans la prière et la contemplation, comblé de gloire et d'honneur, possédant l'intégrité de ses facultés, dans l'état naturel où il avait été créé. Car Dieu a fait l'homme à son image, c'est la Genèse, c'est-à-dire immortel, libre et paré de toute vertu. Mais quand il eut transgressé le précepte en mangeant de l'arbre dont Dieu lui avait interdit de manger, il fut chassé du paradis, toujours dans la Genèse. Déchu de son état naturel, il se trouvait dans l'état contre nature, c'est-à-dire dans le péché, l'amour de la gloire, l'attachement au plaisir de cette vie et dans les autres passions qui le dominaient, puisqu'il s'en était fait l'esclave par sa transgression. Dès lors, le mal augmenta progressivement et la mort régna. Confère Romain. Comme l'ont dit les pères, ils étaient peu nombreux et fort rares ceux qui connaissaient Dieu. Alors l'ennemi déploya toute sa méchanceté et ce fut le règne du péché, épître aux Romains. Alors parurent l'idolâtrie, le polythéisme, la sorcellerie, les meurtres et les autres maléfices du diable.
Vous voyez un peu le tableau. Donc vous voyez que je ne vous ai rien inventé. Je ne vous ai dit que ce que disent les pères. Et en plus, lui dit, les pères disent.
Oui, c'est ça.
Ça montre bien qu'il a lu tous ceux qui sont avant.
Oui.
Et ils sont tous comme ça, hein. Il n'y en a pas un qui n'a pas lu celui qui est avant. Donc, il y a une espèce de chaîne. C'est ça qui est extraordinaire chez les pères. Et chacun ajoute quelque chose qui est soit lié à son état, soit lié à son époque, soit lié à l'inspiration qu'il reçoit. Et tout ça fait... C'est ça qui, finalement, fait la tradition. Mais tous, ils se lisent tous. Hein, et tous, ils prennent, parce qu'ils voient bien que c'est le consensus de l'Église. Hein, et ça, c'est très, très, très important. Faut bien l'intégrer, ça.
Par contre, on sait que les pères disent qu'ils étaient peu nombreux. De qui s'agit-il?
Bah les hommes
peu
étaient peu nombreux.
Et fort rares ceux qui connaissaient.
Bah ça, c'est
Dieu.
Une expérience.
Il y en avait
ça,
quand même.
Qui connaissaient pas Dieu. Mais quand il dit connaître Dieu, ça ne veut pas dire aller à la divine liturgie une fois par an. Enfin, entre guillemets, je me.
Oui, non, mais d'accord.
Connaître Dieu, c'est comme dit Sylvain, c'est connaître Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire Sylvain, il dit, c'est une chose de connaître Dieu, c'est une autre de connaître Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans cette illumination personnelle où tu as fait une expérience de laquelle après laquelle tu pourras jamais revenir en arrière, jamais. C'est impossible, parce que tu as fait l'expérience de Dieu par le Saint-Esprit.
Donc ça existait déjà après la chute.
Mais bien évidemment.
Voilà.
Puisque le malin répand sa méchanceté, comme dit le texte, et le péché s'est répandu.
Il y en a qui sont passés au travers de cette méchanceté.
C'est pas ça, c'est que c'est toujours le libre arbitre. C'est-à-dire, bien que l'image soit abîmée, que la ressemblance, n'en parlons pas, il n'y en a plus du tout. On était coupés de là complètement. Malgré tout ça, il y a toujours la liberté. Voilà. La liberté abîmée, des facultés abîmées, mais elles y sont quand même.
Mais je pense que ce que dit Marie-Christine, c'est qu'ils sont peu nombreux ceux qui vivent cette expérience-là.
Oui, mais je suis étonnée qu'il y en ait.
Oui.
Enfin, tu vois, ils étaient peu nombreux. Là, ils parlent de juste après la chute.
Non.
Avant le Christ, là.
Non, moi,
moi
à mon avis,
avant le Christ,
non, hein. Moi à mon avis, il parle de ce qu'il voit des générations avant lui.
Ah bon.
Tu vois, enfin moi c'est ce que je comprends. Hein.
Ah bon. Eh ben, moi j'ai cru que
les pères.
Même dans
comme on dit les pères. Les pères. Oui, oui, oui.
Mais dans l'Ancien Testament,
oui, ils ont dit,
on
ils
voit ça, c'est-à-dire on parle des enfants de Dieu et les enfants des gens. Et c'est je traduis peut-être ouais. mal. Et même dans certains cas, on dit, et les enfants de Dieu ont vu que les femmes, oui, les filles ça. Des gens étaient belles. Donc c'est là que ça commence
la mixation.
C'est un passage.
Mais je ne sais pas comment on analyse. Moi aussi.
Voilà,
ça c'est très compliqué. Là, on ne va pas rentrer là-dedans parce que là, c'est.
Parce que là, c'est
quelque chose.
C'est,
même
on voit qu'il y a
même les pères s'arrachent les cheveux pour comprendre.
Séparation oui. entre.
Alors. Là, c'est compliqué parce que après il y a des problèmes de traduction, donc c'est Genèse 6 normalement. Tu vois ce que c'est Je sais pas. Hein. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que les filles de leur furent nées, bon, ça c'est la traduction que j'ai, hein. Attention, hein, parce que les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient voilà. et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut.
Voilà.
Le Seigneur dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme, puisqu'il est chair, sa vie ne durera que de 120 ans. Alors bon, c'est compliqué, parce que certains disent que c'est des anges. En hébreu, c'est Néphilim, les tombés. C'est bon, on ne va pas rentrer là-dedans.
On le voit aussi, j'ai lu récemment dans Néhémie,
oui?
quand il s'est mis en colère, parce que les Lévites et les gens qui prenaient des Moabites et
des Madianites,
et des Madianites comme femmes. Alors
oui, il dit non, il ne faut pas.
Elle ouais. était en colère.
Oui, oui, bah oui. Oui, parce que c'est la perte. Aussi. Voilà, ça c'est très voilà. intéressant aussi. Pourquoi Néhémie et Esdras, hein, ils reviennent à Jérusalem, ils veulent reconstruire le temple, etc. Et ils voient que le peuple lui-même. Se marie avec des païens, Madianite et c'est vraiment c'est Édomite, etc. Et donc ils disent mais ça, Dieu va se perdre parce que surtout les femmes païennes elles entraînent, c'est le problème d'Ésaü hein, qui a eu plusieurs femmes païennes, elles entraînent les hommes et du coup le paganisme tombe sur et c'est fini quoi. Et donc lui il est fou, il dit on peut pas restaurer le temple et puis qu'on ait que des païens quoi. Donc il dit non c'est interdit. Donc
n'empêche que Ruth Moabite,
oui, mais,
elle épousait Boaz.
Oui, mais c'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle.
Oui,
mais tu sais ce que disent les rabbins de Ruth. Tu sais ce que disent les rabbins de Ruth. D'ailleurs, les pères aussi, ils sont pas loin. Ils disent Ruth, c'est une convertie. C'est-à-dire que elle a quitté Moab.
C'est vrai.
Elle a quitté Moab oui, et elle dit à sa belle-mère, elle dit partout où tu iras, j'irai, et là où tu seras enterré, je serai enterré.
Voilà.
Je te suis, c'est-à-dire, je suis avec toi, et ton Dieu sera mon Dieu.
Mon Dieu. Voilà.
Donc c'est clair.
Oui, c'est ça.
Donc le problème, c'est pas d'épouser des Moabites, c'est des païennes, et c'est pas des païennes qui disent ton Dieu sera mon Dieu, c'est des païennes qui disent j'en ai rien à faire de ton truc. Voilà. Donc c'est très différent. Quoi. C'est bien de le redire. Bon, ça va? Vous voulez qu'on lise les autres textes pendant qu'on y est ou? J'ai 12 pages, on n'en a fait que 3. Hein. Mais bon. Alors, lisons.
Bon,
quelqu'un d'autre, ou qui veut, oui.
Irénée contre les hérésies.
Personne ne veut lire ?
Si en effet cet homme même que Dieu avait créé pour vivre, lésé par le serpent corrupteur, avait perdu la vie sans espoir de retour et s'était vu définitivement jeté dans la mort, Dieu eût été vaincu et la malice du serpent l'eût emporté sur la volonté de Dieu. Mais parce que Dieu est invincible et longanime, il a commencé par user de longanimité en permettant que l'homme tombe sous le coup d'une peine et fasse ainsi l'expérience de toutes les situations, ainsi que nous l'avons déjà dit. Ensuite, par le second homme, il a ligoté le fort, s'est emparé de ses meubles et a détruit la mort en rendant la vie à l'homme que la mort avait frappé. Mais Dieu n'est ni impuissant ni injuste, lui qui est venu au secours de l'homme et l'a rétabli dans sa liberté. Et c'est pourquoi, au commencement, lors de la transgression d'Adam, Dieu, comme le rapporte l'Écriture, ne maudit pas Adam lui-même, mais la terre qu'il travaillerait. Comme le dit un des anciens, Dieu a transféré à la terre sa malédiction, pour que celle-ci ne demeure pas sur l'homme. Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages de la terre. C'est la même malédiction que le Seigneur adresse dans l'Évangile à ceux qui se trouveront à sa gauche. Allez, maudit au feu éternel que mon Père a préparé pour le diable et ses anges. Il indique par là que le feu éternel n'a pas été préparé principalement pour l'homme, mais pour celui qui a séduit et fait pécher l'homme et qui est l'initiateur de l'apostasie, ainsi que pour les anges qui sont devenus apostats avec lui. C'est ce même feu que subiront aussi en toute justice ceux qui, à l'instar de ces anges, dans l'impénitence et l'obstination, auront persévéré dans les œuvres mauvaises. Dans le cas d'Adam, rien de tel, bien au contraire. Bien au contraire de Caïn. C'est en effet par un autre qu'il a été séduit, sous prétexte d'immortalité. Et aussitôt, il est saisi de crainte et il se cache, non avec le sentiment qu'il pourrait échapper à Dieu, mais rempli de confusion à la pensée qu'après avoir transgressé le précepte de Dieu, il n'est plus digne de paraître en sa présence et de converser avec lui. Or, la crainte du Seigneur est le commencement de l'intelligence. Et l'intelligence de la transgression engendre le repentir, et à ceux qui se repentent, Dieu dispense sa bonté. De fait, par la ceinture qu'il se fit, Adam montra son repentir, et c'est de feuilles de figuier qu'il se couvrit, alors qu'il existait bien d'autres feuilles qui eussent moins molesté son corps. Il se fit ainsi un vêtement accordé à sa désobéissance, parce qu'il était terrifié par la crainte de Dieu, pour réprimer l'ardeur pétulante de sa chair, car il avait perdu son esprit ingénu et enfantin, et il en était venu à la pensée du mal. Il s'entoura, lui et son épouse, d'un frein de continence, dans la crainte de Dieu et dans l'attente de sa venue, comme s'il eût voulu dire « Puisque cette robe de sainteté que j'avais reçue de l'Esprit, je l'ai perdue par ma désobéissance, je reconnais maintenant que je mérite un tel vêtement qui n'apporte au corps aucune jouissance, mais qui le pique au contraire et le déchire. Et sans doute eût-il gardé toujours ce vêtement pour s'humilier lui-même si le Seigneur, qui est miséricordieux, ne les avait revêtus de tuniques de peau à la place des feuilles de figuier. Et c'est aussi pour ce motif qu'il le chassa du paradis et qu'il le transféra loin de l'arbre de vie. Non qu'il lui refusa par jalousie cet arbre de vie, comme d'aucuns ont l'audace de le dire, mais il le fit par pitié, pour que l'homme ne demeura pas à jamais transgresseur, que le péché qui était en lui ne fût pas immortel et que le mal ne fût pas sans fin ni incurable. Il arrêta ainsi la transgression de l'homme, interposant la mort et faisant cesser le péché, lui assignant un terme par la dissolution de la chair qui se ferait dans la terre, afin que l'homme, cessant enfin de vivre au péché et mourant à ce péché, commença à vivre pour Dieu.
Hein? Non, je t'avais demandé d'arrêter avant, parce que bon, c'était un peu long.
Ouais. Ah, mais il fallait me dire stop.
Oui, ben, j'ai dit, mais bon, t'as pas vu. C'est pas grave. Non, c'est pas grave.
Non,
c'est pas grave, c'est pas grave, c'est très bien. Donc là, on a un panorama de, pour ce qui va suivre, hein, c'est-à-dire, donc c'est ce que je voudrais vous parler maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que cette chute? Qu'est-ce que c'est que cette chute, ce qu'on appelle la chute? Le mot chute n'est pas écrit en toutes lettres dans la Bible à cet endroit, en tout cas. Bien qu'on parle des néphilim, hein, des chutants ou des tombants dans le chapitre 6, mais là, pour le moment, on n'en parle pas. Et n'oublions pas que, surtout pour les pères, cette chute a un caractère cosmique. Cosmique. Alors, je n'arrive pas, ça fait presque 10 ans que je suis à la recherche de l'auteur de quelque chose que j'ai entendu il y a 10 ans, dont je ne sais plus qui c'est, je sais que c'est un père, je ne sais plus lequel, qui dit un truc extraordinaire, moi j'adore. Hein. Si quelqu'un peut me le retrouver, ce serait extra. Qui dit, l'homme, tant qu'il était en communion avec Dieu, il était comme un miroir tourné vers le soleil. Et tout ce soleil faisait que tout se reflétait, comme il était un miroir et qu'il y avait la lumière, toute la création, tout se reflétait et tout le monde était dans le soleil, puisqu'il irradiait de ce soleil. Au moment où il transgresse, c'est comme s'il se tourne, il tourne son dos, il tourne son miroir, il se met dans l'ombre, dans le noir, et toute la création avec lui. toute la création tombe dans le noir de la seconde à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, ça doit être... C'est... Alors, moi, j'avais cru que c'était Grégoire de Nice. Bon, j'ai trouvé personne qui me confirme. Bon. En tout cas, c'est un père et un père prestigieux, je pense. Bon. Alors, donc, une chute à caractère cosmique. Ça, c'est très, très important. N'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a choisi la désobéissance, mais il aurait pu choisir d'aller dans le bien, de garder la communion. Et donc, c'est un choix délibéré. Hein? Alors, avec des circonstances atténuantes, si on veut, mais c'est un choix délibéré quand même. Et le serpent lui propose donc une autre possibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est présenté dans la Bible comme une fois que le serpent lui propose quelque chose, en fait, c'est une tentation permanente. C'est une tentation permanente. Donc, la Bible le raconte une fois parce que c'était la fois fatidique, mais si ça se trouve, ça s'est produit plein de fois avant. La tentation permanente de se couper de Dieu et d'écouter une autre voix et donc de choisir la mauvaise voie, de choisir le mauvais chemin. Et cette tentation permanente avait pour fonction de mettre constamment à l'épreuve la volonté de l'homme et du coup de donner une force et une valeur exemplaire au choix qu'il fait d'être toujours avec Dieu. Sans cette possibilité d'accomplir le mal, Adam n'aurait pas été vraiment libre. Ça, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'il n'aurait eu le choix que d'une voix, la voix de l'image à la ressemblance. Voilà, tout simplement. Et donc, comme si cette voix, la seule qui aurait été celle de paradisien, comme si cette voix était imposée par sa nature. Puisque sa nature était allée par là. Et comme Dieu voulait que l'homme soit parfait, il lui a donné, en le créant, à son image, il lui a donné une liberté absolue, de façon à ce que lui-même choisisse de participer à la déification et de s'approprier en lui la ressemblance. Et vous savez que certains pères, et là vous le trouvez dans le livre d'Olivier Clément, il explique très bien, Source, où il explique que la liberté de l'homme est un des points les plus importants du fait qu'il est à la ressemblance de Dieu. Alors certains vont dire que c'est parce qu'il parle, d'autres vont dire, mais il y a une sorte de consensus sur cette idée de liberté. Voilà. L'homme est libre parce que Dieu est libre et que Dieu le fait comme lui, et qu'il est à son image. Ça va loin, hein. Ça va très loin.
D'où la notion de choix.
D'où la notion de choix. Bah, évidemment.
S'il n'y a pas de choix.
S'il n'y a pas de choix, tu n'es pas libre. C'est... Alors, les pères disent, et là, c'est Saint Jean Chrysostome, que le fait d'obéir, hein, quand Dieu lui dit « Tu peux manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » Quand Dieu lui dit ça, l'obéissance à cette injonction de Dieu implique de la part de l'homme un exploit, une ascèse de la vertu. Une épreuve soumise à sa libre volonté. Donc c'est une épreuve. Donc il y a une liberté, il y a une nature, voilà, mais il y a quand même quelque chose à surmonter. Alors c'est pas la même chose que nous, mais il y a quand même quelque chose à surmonter qui est « j'ai le choix de faire autrement ». Et que si Adam avait obéi au commandement de Dieu, il avançait libre vers une perfection pour acquérir la ressemblance. Et cette perfection et cet accomplissement de l'acquisition de la ressemblance lui octroyait l'immortalité. Ou en tout cas le gage de l'immortalité. Là, c'est Saint Jean Chrysostome de nouveau qui dit « Adam ne fut pas créé pour mourir, mais pour être immortel ou en marche vers l'immortalité de par sa propre volonté. » Ça, on en avait déjà parlé, mais je pense que c'est important de le redire. Alors, certains disent que ce commandement, même s'il y avait quelque chose à surmonter, c'est-à-dire de faire toujours le bon choix, était facile à respecter, puisque les conditions du paradis étaient les plus aptes à ce qu'Adam puisse atteindre le but ultime de sa perfection. Et que donc, c'était facile, mais il a fait un mauvais usage de sa liberté. Voilà. Et donc, ce que disent les pères dans cette chute, et on le sait, hein, mais c'est bien de se le redire, c'est que le premier qui s'est révolté, la première créature qui s'est révoltée, c'est l'ange, Lucifer, l'ange déchu. L'ange et toute sa troupe qui ont suivi avec lui. Il a refusé la vraie vie, comme on a dit tout à l'heure, au moment où il a vu Adam évoluer au paradis, la douceur infinie dans laquelle il était, il le voyait brillant d'une gloire éternelle, il marchait de la terre au ciel et du ciel à la terre, et il fut en proie à une jalousie terrible. Donc, comme il était jaloux, la jalousie a créé en lui la méchanceté, et il va faire tout pour ramener sur le terrain de la révolte avec lui l'homme. Donc il va s'acharner. Quoi. De manière à ce qu'il soit sur le terrain de la jalousie, sur le terrain de l'esclavage et sur le terrain de la mort. Et Maxime le Confesseur dit que la haine sans la jalousie n'aurait pas pu à elle seule inciter le serpent à duper la créature pensante de Dieu. Intéressant. Il fallait la combinaison des deux pour que le démon élabore son piège. La jalousie et la haine, c'est-à-dire le fait de vouloir le mettre dans sa situation. Donc il a dû employer la ruse pour arriver à ses fins. Et la ruse qu'il emploie, c'est de se présenter comme un ami, un utile conseiller. Et en fait, derrière cet ami et cet conseiller très, très, très pertinent, se cachait un ennemi féroce, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien dans nos relations, enfin, quand on a un peu traversé des choses.
On pourrait dire que c'est une histoire qui dure encore.
C'est une histoire qui dure encore, voilà. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Et là où il y a quelque chose qui est incompréhensible pour les femmes, c'est que Ève, puisque c'est Ève la première hein, qui a été tentée, savait de quel amour immense Dieu l'aimait. Elle avait par la grâce tous les dons divins que Dieu lui avait dispensés, de manière à pouvoir discerner ce que nous, des fois, on ne peut plus discerner. Un ami qui se présente en ennemi, on met souvent du temps à le découvrir. D'accord ? Donc nous, on n'arrive plus à le discerner tout de suite. Elle avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Elle était habilitée à découvrir le mensonge du serpent et à comprendre que Dieu, que le démon était en train d'insulter Dieu, en fait, quand il lui dit non, t'as rien compris. Bon. en insinuant que Dieu, en plus, mentait et lui cachait toute la vérité, quoi. Et surtout, le fait qu'elle croit que Dieu ne veut pas qu'ils deviennent des dieux, parce que quand vous allez manger, vous allez devenir des dieux. Mais non, pas du tout, Dieu n'a pas dit ça. C'est effroyable, parce qu'elle avait la conscience de le discerner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ce que disent les pères. Et donc, très intéressant, du moment où elle consent à parler avec ce serpent, au moment même où elle se met à parler avec lui, il y a un changement déjà intérieur qui se produit. Donc ça, c'est très intéressant parce que les pères vont le dire dans le chemin du retour en disant, vous savez, les cinq étapes de la tentation, on en parlera peut-être la prochaine fois, que la première étape, c'est la pensée qui vient et qui est une pensée, si elle est passionnelle, c'est une pensée démoniaque, parce que la passion et le démon, c'est la même chose. Et si tu commences à discuter avec elle, t'es foutu. Donc, tu ne discutes pas avec elle. Alors, ceux qui sont très très forts et très avancés, ils peuvent aller jusqu'à la deuxième étape en discutant avec la pensée en disant « tu m'embêtes ». Mais même nous, on n'a même pas besoin de dire ça. On ne discute pas. On ne discute pas avec la pensée démoniaque. C'est très important. Et ça veut dire quoi? C'est qu'on coupe tout de suite. Elle arrive. Et ça, c'est la grâce aussi de ce qu'on a découvert au monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon. C'est tu mets la prière de Jésus à la place. Tu mets autre chose à la place. Et qui te ramène tout de suite dans la relation. Parce que on ne peut pas ne pas penser. Donc, de toute façon, il faut penser quelque chose. Donc tu mets quelque chose d'autre. Et qui soit du divin, qui soit de la lumière. Alors, la prière de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein, surtout quand on a beaucoup récité, finalement, elle revient, quoi. Hein. Donc, et pourquoi ? Parce que dès que le serpent commence à lui parler, il arrive à s'introduire à l'intérieur d'elle. Donc, c'est plus seulement une parole de l'extérieur. C'est une parole qui est... Voilà. D'ailleurs, la pensée, entre guillemets, elle monte de l'intérieur. Même si on sait que pour certaines pensées, c'est le démon qui nous les envoie comme ça, pouf, hein, de l'extérieur. Mais nous, la manière dont on vit, c'est que c'est de l'intérieur. D'accord ? Donc, les pères le disent, ça, pour Ève. Pour elle. Pour Ève. Et il a introduit en elle, non seulement de devenir l'égale de Dieu, ce qui aurait pu être normalement normal, mais de devenir l'égale de Dieu en dehors de Dieu. Et c'est ça le problème. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, donc avant la faute, donc vous sentez qu'il y a des étapes, c'est pas tout d'un coup, ça y est, on perd tout du... Il y a des étapes. Son regard simple et innocent s'obscurcit, et ce fruit de l'arbre, elle l'avait toujours vu très bien. Elle l'avait toujours vu, je veux dire. Ça faisait un moment qu'il était là. Et jamais elle a eu envie de le prendre. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, elle ait envie de le prendre ? Il était beau et à voir, et bien, et séduisant et tout ça. Bah, ok, on est d'accord. Et alors ? Donc vous sentez la perversion de la pensée, du regard, et puis de la concupiscence, enfin tout le reste, parce qu'on a écouté la voix du serpent. Alors qu'on est passé des milliers de fois par jour devant cet arbre, et puis que Dieu avait dit non, et puis bon, c'est pas un problème. C'est fou, quoi. Hein, c'est... Et on est tout le temps comme ça. Ça c'est nous. Hein, c'est...
Donc la pensée est bien à l'origine de tout péché.
Bien sûr. Ah bah ça, bah, tous les pères le disent. Hein.
Ah bah...
Et donc, l'esprit, elle a un esprit qui devient enténébré.
J'en viens toujours, moi c'est mon obsession.
Ah oui,
pour la prière.
Ah oui, la prière avant la communion. Ouais.
Ah oui, justement, ouais. La pensée.
Voilà. Ouais.
Ça fait quelques années que j'en parle.
Ah oui.
Ah oui, c'est vrai que. C'est vrai que. Oui, c'est vrai. Ouais. On aura l'occasion de.
Oui.
Et donc. Donc, elle réussit à introduire dans son âme donc ce désir de devenir égal de Dieu sans Dieu, son esprit sans ténèbres, et finalement, elle est mue par un désir égoïste qu'elle n'avait finalement jamais connu avant. Et elle crut ce que lui dit le serpent. Attends, mais ça, c'est le truc, tu te dis, mais comment est-ce qu'elle a fait, quoi ? C'est vraiment... Et les pères continuent en disant, donc elle mange et en plus elle fait manger son mari. Donc je vais m'arrêter hein, dans un quart d'heure. Oui, je sais. Et finalement, si on réfléchit bien, c'est un acte illogique. C'est illogique en fait. Hein. Et dans cet acte illogique, elle et son mari font preuve d'une ingratitude radicale envers leur créateur, quoi. Et d'irrespect. Parce que Dieu leur donne tout, et ils croient quelque chose qui est à l'inverse.
Et en plus, après, Adam, il va dire, non, c'est pas moi,
oui,
c'est
oui.
Elle.
Oui, bien sûr, ça c'est bien sûr. Oui, c'est fort. Bah, la femme que tu m'as donnée.
Voilà.
Ta faute. Mais ça, c'est le truc classique, quoi. Et le père Théodore termine en disant, c'est la première, ça c'est intéressant parce qu'il le rajoute avec le monde moderne, c'est la première manifestation d'une énergie athée en l'homme doué de raison. Ça, je trouve ça génial. Première manifestation de l'énergie athée. C'est ça, hein ? Athée, c'est-à-dire sans Dieu. Saint Basile de Césarée dit... Alors voilà. Alors ce que disent les pères est très intéressant aussi. Ils disent que, donc, Dieu convoque Adam et Ève. Où es-tu ? Bon. Et donc, il leur parle. Et aucun ne reconnaît sa faute. Puisque Adam, c'est la femme que tu m'as donnée, la femme qui est le serpent. Saint Basile de Césarée dit, Adam devait répondre à son créateur. Deux points, ouvrez les guillemets. Ô Seigneur, oui, j'ai transgressé le commandement. J'ai péché. J'ai écouté le conseil de mon épouse et je me suis trompée. Aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. » S'il avait dit cela, Adam aurait pu rester dans le paradis et ne pas subir ce qu'il a subi. C'est... Vous en avez les mains qui tombent, quoi. C'est... Waouh. Non, mais c'est fou, quoi. C'est...
Adam serait resté, mais pas Ève.
Non, mais Adam, c'est une manière de dire. Tout le monde, je veux dire. Mais au lieu de montrer son repentir et de demander pardon, il répond avec insolence. C'est Ève que tu m'as donnée. C'est elle. Et donc, il se comporte comme s'il dit à Dieu, c'est ta faute. Donc, il déplace sa responsabilité sur Dieu, ce qui aggrave sa faute. Et Ève, quand elle accepte la parole du serpent, elle commet deux fautes. Elle pèche contre la fidélité, contre l'amour de Dieu, contre la vérité, et contre la communion qu'elle vivait d'un Dieu qui est ami des hommes. Et c'est pour ça que les pères disent quelque chose qui est extrêmement important. L'homme spirituel, c'est celui qui accueille tout ce qui lui arrive comme bien pour lui de la part de Dieu. Ce qui est un truc extrêmement difficile. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est dans la pire des souffrances. L'homme vraiment spirituel, celui qui accueille tout ce qui lui arrive comme étant bien. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui lui envoie et que Dieu est bon pour lui. Je ne sais pas si nous avons dans cette paroisse deux hommes qui ont perdu leurs épouses, une il y a 3 semaines et l'autre il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'est un bien, quoi. Enfin, comment ils le vivent. Et on ne peut pas se permettre de leur dire. Si un jour ils le découvrent, c'est bien. Mais nous, on est avec eux dans la souffrance, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour nous de considérer tout ce qui nous arrive comme un bien ? C'est quand même énorme. Tout ce qui m'arrive, la maladie, la mort, la souffrance, toutes les épreuves, les contrariétés, tout, du plus petite chose à la plus grande, merci, c'est bon pour moi. Bah, le jour où on a ça, on trouve le paradis. Hein.
C'est ce que fait Job.
C'est ce que fait Job.
C'est la confiance rétablie. Face au doute qui a insinué.
Tout à fait. Ouais. Donc la confiance envers Dieu a disparu entièrement. L'amour s'est atténué et attiédi. Et la nature humaine se met à primer sur la nature divine. Il y a un renversement. C'est plus la nature divine qui guide la nature humaine. C'est la nature humaine qui se met au devant. Et à ce moment-là, les passions mortifères s'emparent du corps, de l'âme et de l'esprit. Et avec cette faute, le péché ouvre une ère nouvelle, une ère de tristesse, de douleur, de soupir, une ère où le péché impose son règne précipité sur l'humanité. Le péché dont la valeur est comparable au deuil, aux lamentations. Le péché qui introduit la mort, devenue la mort d'une âme immortelle, car elle sépare l'âme du Dieu, synonyme de vie et d'immortalité. En fait, c'est pour ça qu'on tombe dans la mortalité. C'est que le seul qui a vraiment la vie, c'est Dieu. Si on se coupe de la source de vie, ben on tombe dans la mortalité, c'est logique. Voilà. Enfin, on va s'arrêter là, parce que bon, je ne voudrais pas priver les autres, mais...
Parce que les gens qui disent le livre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bah c'est normal qu'on veuille connaître le bien et le mal, qu'on veuille discerner le bien et le mal, mais en fait, c'était pas besoin de discerner, puisqu'il n'y a pas.
Non.
Donc on introduit un élément qui n'était pas là pour faire jouer de jauge
passer
de l'autre côté.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les rabbins ajoutent un élément. Je me souviens, j'en avais parlé dans une catéchèse il y a plus de 10 ans à Nice, où il y avait d'ailleurs le père Michel, mais il y avait aussi le père Jean Guette. Et le père Jean Guette, à la fin de la catéchèse, il a voulu en savoir un peu plus, parce que ça semble non conforme à ce que la tradition chrétienne nous dit. Mais je pense que ça fait que sembler non conforme, parce qu'en fait, si on réfléchit bien, et d'ailleurs il avait compris après. La tradition juive dit... Le texte biblique dit, au moment de la création des arbres, je n'ai pas l'hébreu, mais je vais le retrouver derrière le français. Donc, vous savez que les arbres sont créés normalement le troisième jour. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Littéralement en hébreu, c'est qu'ils font, ils ont des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des arbres fruits. Pas des arbres contenant semences, ni des arbres qui portent des fruits, des arbres fruits. Ça veut dire que l'arbre est entièrement consommable, entièrement. Et l'arbre dit, non, moi je ne veux pas. Je serai que portant fruit. Parce que je ne veux pas être entièrement consommé, parce que moi je le connais, l'homme, il va me bouffer en entier. C'est génial. Hein. Alors c'est pareil, c'est un midrash, c'est-à-dire qu'il faut le prendre... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création elle-même est libre. Et ça on le sait, quelque part. Même l'inanimé, et particulièrement les arbres, puisqu'on sait que les arbres, comme dit le Deutéronome, l'homme est comme un arbre des champs. Et qu'on est entre le troisième et le sixième jour, et vous savez bien, on ne va pas faire toute la création, mais il y a un répondant entre la création de l'arbre du troisième jour et la création de l'homme du sixième jour. Et puis, le psaume premier nous dit...
Heureux l'homme qui
met
sa foi dans le Seigneur, qui est planté au bord des eaux. Il est comme un arbre...
Comme un arbre planté au bord des eaux.
On voit bien qu'il y a... Il donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt.
Et jamais son feuillage ne meurt, ok? C'est pour ça que c'est bien d'avoir des trucs par cœur, parce que ça revient automatiquement. Et donc, ça veut dire que la création, que c'est pas l'homme tout d'un coup, pouf! On a vu là à l'instant que Ève, avant la faute, elle est déjà dans un processus, voilà, où elle se laisse gagner par des trucs négatifs, et puis par le manque de confiance, et puis où petit à petit quelque chose se coupe de sa relation à Dieu, et qu'elle fait confiance à la parole d'un autre, plutôt que la parole de Dieu, et que faisant confiance à la parole du serpent, ben, elle va le devenir comme le serpent. Dans la jalousie, etc. Enfin, les mêmes trucs. Mais avant, il y a déjà dans la création une potentialité de liberté qui fait que l'arbre peut refuser, c'est une image, hein, comprenez-le bien, mais c'est très important, peut refuser d'être entièrement consommable parce qu'il a peur que l'homme le mange entièrement. Il avait peut-être raison.
Parce que l'homme,
il avait peut-être raison.
La création, ouais.
Mais c'est intéressant, quoi. Ce qui montre que le péché de l'homme arrive à la fois au terme de la création et à la fois au début de la création. C'est un va-et-vient. C'est-à-dire qu'il est, il est responsable, quelque part, du péché de la nature. Et en même temps, il est solidaire de cette nature qui est déjà fragile. Et il s'enfonce encore plus dans cette fragilité en lui-même en mettant toute cette nature dans l'ombre, dans la nuit, et en la coupant de son créateur.
Alors, est-ce que la nature, dès le départ, était fragile? Est-ce que Dieu l'a créée fragile?
C'est-à-dire que les pères en parlent assez peu, mais on peut transposer à la nature ce qu'on a dit sur l'homme. C'est-à-dire que la nature aussi, il faut qu'elle se parfume.
Oui, qu'elle se parfume.
Se rende parfaite, merci.
Qu'elle devienne parfaite.
Ouais, voilà. C'est-à-dire, alors, c'est pas tout à fait pareil dans le sens où il n'y a pas l'intelligence, enfin, il n'y a pas toute. Bon, nous, on est au sommet. Mais c'est comme si Dieu avait fait. D'ailleurs, Dieu, il fait une création qui n'est pas Dieu. Donc, si elle n'est pas Dieu, il y a bien une autonomie, quelque part.
Elle n'est pas achevée. Oui,
mais l'homme, il est chargé, justement, de la parfaire.
Aussi. Oui, je sais bien. Je sais bien.
Elle est confiée à la charge de.
Je sais bien,
c'est pas toute seule.
Mais la question que je me pense par rapport à ce midrash que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette interaction entre l'homme et la nature. Il y a une solidarité absolue. Et ce midrash simplement nous montre ça. Voilà, ça résonne dans tous les sens. Que ce soit avant, après, bon, c'est pas le plus important, quoi.
C'est. Justine. Pardon. Une parenthèse qui m'est revenue avec tout ce qu'on a dit. J'ai entendu une fois une homélie qui parlait de Job et puis qui disait que Job, il était un homme bien, reconnu bien, sa grande faute, c'est qu'il se savait bien. Mmh. Et le fait qu'il se savait bien, c'est-à-dire qu'il est bien de lui-même. Mmh. Et c'est là que son épreuve est venue. Et je fais le parallèle avec l'homme Adam, l'homme premier. En fait, il est bien. Et son péché, c'est de devenir connaisseur de la vérité, du mal et du bien, mais sans Dieu. En fait, il se sentait bien par lui-même. Il a oublié qu'il est bien parce que c'est Dieu qui lui a
rendu. Et en fait, c'était... quand l'homme se sent bien, c'est comme si il est sur lui-même. Je me sens bien, bon, je suis tourné vers moi. Alors que l'homme spirituel, c'est celui qui est tourné vers Dieu et qu'il a complètement oublié qui à la limite, qui voilà. Il est.
Et c'est, voilà. ça renvoie
il s'en
un
fiche
peu,
complètement voilà. De comment il se sent.
Il est dans la relation. Je ne partage pas pour Job.
Oui.
Je ne partage pas ça pour Job. Parce que c'est justement le diable qui a.
Oui, oui,
mais. Ah, mais...
Oui, oui.
Ton serviteur, oui. Mais je vais. Oui, oui. Que c'est quand aussi. Oui. Et en fait, Job, quelque part, il a tout accepté.
Oui, oui, mais
c'est
plus complexe que ça.
C'est à la fin, c'est à la fin que ça se voit, à la fin.
Oui, c'est-à-dire que tu as raison dans un sens, mais lui n'a pas tort. c'est plus complexe de ça, c'est-à-dire que effectivement, il y a surtout que quand tu lis bien le texte, surtout au début, quand tu lis bien le texte de Job, tu vois que il offre des sacrifices pour ses enfants, parce qu'il a peur que ses enfants, dans toutes ces fêtes, ils ont un peu, c'était un peu éméchés, ils ont fait un peu des bêtises. Donc ça montre bien qu'il y avait quelque chose qui c'était trop. C'était trop. Il y avait une espèce de précaution surérogatoire pour que tout se passe bien dans sa famille, quoi. Donc ça montre une fragilité. Et peut-être, justement, quelquefois, on dit dans le langage courant, qui peut le plus que le mien, moins. Mais celui qui fait... comment on dit,
qui peut le plus, peut le moins.
Non, mais... celui qui en fait trop, finalement, je ne sais plus comment on dit. Là.
Le mieux, l'ennemi du bien.
Voilà, le mieux, l'ennemi du bien, merci. Voilà. Et c'est un peu ça. C'est surérogatoire, il n'y a pas besoin. Et cette surérogation montre qu'il y a déjà quelque chose de la confiance avec Dieu qui est fragilisé. Parce que Job, c'est compliqué, hein, et c'est génial dans un sens. C'est compliqué dans le sens où, effectivement, il est réprochable. Mais quand on regarde bien entre les lignes, on voit qu'il y a... Voilà.
Moi, j'ai fait.
Voilà. Moi, j'ai fait, etc.
Voilà. C'est un peu... Voilà. Et moi, j'ai fait.
Et pourtant, à la fin, dans le chapitre 42, là, Dieu lui dit, mais des trois amis, là, zéro pointé, il y en a qu'un qui a bien parlé de moi, c'est Job. Mais ça montre la miséricorde que Dieu a, et ça montre aussi que finalement, le plus important, c'était peut-être pas ses imperfections de Job, c'était que les trois amis, ils n'ont rien compris à qui est Dieu. Voilà. Et que c'est ça que Dieu veut valoriser en Job, en disant, Job, il sait qui est Dieu, il sait ce que c'est que cette relation, voilà. Même si ça peut être fragile à certains moments.
Parce qu'en même temps, Job, en ayant des enfants, il a aussi la faiblesse des parents.
Oui, bien sûr.
Donc il y a quelque chose aussi qui est fragilisé
bien sûr.
En étant parent.
Bien sûr.
Mais en fait, je comprends
pas. Oui, mais c'est très important, parce que c'est là où c'est très subtil, toutes ces choses-là, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps revenir au texte. Enfin, on n'a pas fini, hein, une vie entière n'est pas assez longue. Bon, on va s'arrêter là.
Merci.
Bonne fin de carême, belle fête de Pâques.
Pareil,
ça va être grandiose. Je vais faire tenir jusque-là. On se retrouve le 2 juin, normalement.